Chapitre 5. Le sentier du rayon. 1.
À la maison, marmonna Heidi d'une voix étouffée et comme avinée à ses propres oreilles. Retour à la maison, parce qu'il n'y a rien qui vaille son chez-soi. Ah, ça non.
Il tenta d'ouvrir les yeux, sans succès tout d'abord. Comme si on les lui avait enduits de glu. Il tira sur la peau de son visage en appuyant sa main sur son front. Ça marcha. Ses yeux s'ouvrirent instantanément. Il ne vit ni la salle du trône du palais vert, ni, comme il s'y était attendu, la chambre richement agencée, mais quelque peu claustrophobique, où il se trouvait précédemment. Il était dehors, étendu sur l'herbe blanchie par l'hiver d'une petite clairière. Tout près se dressait un bosquet où d'ultimes feuilles sèches s'accrochaient encore aux branches de certains arbres. L'une d'elles arborait une étrange feuille blanche, une feuille albinos. On entendait gazouiller joliment un filet d'eau courante un peu plus loin, dans le bosquet. Le nouveau fauteuil roulant amélioré de Susanna était abandonné dans l'herbe haute. Eddie remarqua que ses pneus étaient boueux, et des feuilles mortes et des touffes d'herbe prises dans ses rayons. Au-dessus de sa tête, le ciel était plein de nuages blancs, immobiles, chacun évoquant un panier à linge débordant de draps. Le ciel était dégagé quand on est entré dans le palais, songea-t-il. Et il prit conscience que du temps avait coulé de nouveau. Peu ou beaucoup, il n'était pas certain de vouloir le savoir. Le monde de Roland était comme un changement de vitesse, dont les pignons étaient pour ainsi dire faussés. On ne savait jamais si le temps allait passer au point mort ou vous précipiter en surmultiplier. Mais ce monde était-il bien celui de Roland? Et si tel était le cas, comment y était-il retourné?
Et comment le saurais-je? Fit Eddie d'une voix rauque.
Il se remit lentement sur pied, l'opération le faisant grimacer de douleur. Il ne croyait pas avoir la gueule de bois, pourtant ses jambes étaient lourdes et lui faisaient un mal de chien, comme s'il venait de piquer un de ses roupillons sévères du dimanche après-midi. Roland et Susanna étaient couchés sous les arbres. Le pistolero s'ébrouait déjà, alors que Susanna, étendue sur le dos, les bras exagérément écartés, ronflait d'une façon fort peu élégante ou féminine qui arracha un sourire à Eddie. Jake n'était pas bien loin. Ôté, sommeillant près de l'un de ses genoux. À l'instant où Eddie tourna les yeux vers eux, Jake ouvrit les siens et se redressa sur son séant. Il avait le regard écarquillé, mais vide. Il était éveillé, mais avait été si profondément assoupi qu'il l'ignorait encore.
« Bah !»
fit Jake, qui bâilla à n'en plus finir.
« Ouais !»
fit Eddie.
Je dirais même plus.
Lentement, il décrivit un cercle et, parvenu environ aux trois quarts de son point de départ, aperçut le palais vert à l'horizon. Vu d'ici, il paraissait tout petit. La journée sans soleil l'avait dépouillé de sa brillance. Eddie estima qu'il devait se trouver à une cinquantaine de kilomètres. Venant de cette direction, les traces du fauteuil roulant de Susanna menaient jusqu'à eux. Il entendait la tramer, mais faiblement. Il crut la voir aussi, miroitement vif-argent tel celui d'une étendue d'eau marécageuse recouvrant le plat pays à ciel ouvert de ses traces campagnes, qui finissait par s'assécher à 10 kilomètres d'ici. 10 kilomètres à l'ouest d'ici. Étant donné l'emplacement du palais vert et le fait qu'il se déplaçait vers l'est sur l'Interstate 70, c'était la déduction la plus naturelle. Mais comment le savoir vraiment sans pouvoir s'orienter sur le soleil qui demeurait invisible?
« Où est passée l'autoroute ?» demanda Jake.
Sa voix était en suquet, rauque. Otte le rejoignit, étirant ses pattes arrière l'une après l'autre. Eddie s'aperçut que le bafouilleux avait perdu l'un de ses bottillons.
« Peut-être qu'on a laissé sa construction en plan parce que ça n'intéressait plus personne. »«
Je crois qu'on n'est plus au Kansas, » dit Jake.
Eddie le regarda attentivement, mais on conclut que le gamin ne se livrait pas consciemment à des variations sur le magicien d'Oz.
Ni celui où jouent les Kansas City Royals, ni celui où jouent les Monarchs.
Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Jake montra le ciel du pouce. Et quand Eddie leva les yeux, il vit qu'il avait mal regardé. Le ciel n'était pas uniformément couvert et blanc, aussi chiant qu'un panier à linge plein de draps. Directement au-dessus de leur tête, un troupeau de nuages filait en bouillonnant vers l'horizon, alignés comme un seul homme. Ils étaient de retour sur le sentier du rayon. 2.
Eddie ? Où es-tu, mon chou ?
Ce dernier abandonna la voie pavée de nuages dans le ciel et vit Susanna qui, redressée, se frottait le bas des reins. Elle ne semblait pas très sûre de savoir où elle était, ni peut-être même qui elle était. Les orthopèdes rouges qu'elle portait paraissaient étrangement ternes sous cet éclairage, tout en demeurant les choses les plus brillantes qu'Eddie avait sous les yeux, du moins jusqu'à ce qu'en les baissant, ils n'aperçoivent ses pieds chaussés des boppers à talons cubains. Eux aussi avaient une apparence terne, et Eddie ne pensa plus que le temps couvert était seul en cause. Il observa les mocassins de Jake, les trois bottillons restant dotés, les bottes de cow-boy de Roland, le pistolero s'était redressé à son tour, et les bras croisés autour des genoux regardaient au loin, le regard vide. Partout le même rouge rubis, mais un rouge éteint, sans vie, comme si la magie qui leur était essentielle avait été épuisée. Soudain, Eddie ne désira qu'une seule chose, ne plus les avoir aux pieds. Il vint s'asseoir près de Susanna, lui donna un baiser. « Bonjour, ma belle au bois dormant, » dit-il, « ou plutôt, bon après-midi, si ça se trouve. » Puis, vite fait, leur contact lui répugnant presque, cela revenait à toucher de la peau morte. Eddie ôta les boppers d'un coup sec. Il s'aperçut alors que le bout en était éraflé et le talon boueux. Les boots n'avaient plus du tout l'air neuf. Si Eddie avait commencé par se demander comment ils étaient arrivés jusque-là, sentant à présent les muscles douloureux de ses jambes et revoyant les traces laissées par le fauteuil roulant, il le sut. Ils avaient marché, pardi. Marché en dormant.
« Ça, dit Susanna, c'est la meilleure idée que t'aies eue depuis longtemps, disons. »
Elle se débarrassa des orthopèdes. Un peu plus loin, Eddie vit que Jake retirait les bottillons à ôter.
« Est-ce qu'on y était, Eddie ?» lui demanda Susanna. « Est-ce qu'on était vraiment là-bas quand il... quand j'ai tué ma mère ?»
acheva Roland.
« Oui, j'étais présent, tout comme moi. Les dieux m'aident, j'étais là-bas, et je l'ai fait. »
Se voilant la face de ses mains, il se mit à sangloter sec. Susanna rampa jusqu'à lui avec cette agilité qui transformait sa reptation en une espèce de démarche. L'entourant de son bras, elle le força à éloigner ses mains de son visage. Roland résista d'abord, mais elle insista, et finalement, il consentit à abaisser ses mains qui avaient tué, et à laisser voir le regard hanté de ses yeux débordant de larmes. Susanna pressa le visage de Roland contre son épaule à elle.
« Laisse-toi aller, Roland, » dit-elle. « Ne t'en fais pas. » « C'est fini, tout ça. C'est derrière toi. »
« Une chose pareille n'est jamais derrière soi, » dit Roland. « Non, je ne le crois pas. Jamais. »«
Tu l'as pas tué, » dit Eddie. « C'est trop facile. »
Le pistolero avait de nouveau le visage enfoui contre l'épaule de Susanna, mais on entendait clairement ce qu'il venait de dire.
« On ne peut pas éluder certaines responsabilités, ni certains péchés, ni certaines fautes. »« Bien sûr, Réa était présente, d'une certaine façon, s'entend. »« Mais je ne peux pas rejeter toute la faute sur la vieille du Curse, quelle qu'en soit mon envie. »«
C'est pas elle non plus, dit Eddie. C'est pas ce que je veux dire.
Roland leva la tête.
Alors de quoi tu parles, bon sang ?
Du cas, répondit Eddie. Du cas qui est comme le vent.
3.
Dans leur paquetage, ils trouvèrent des provisions que nul d'entre eux n'avait mises là. Des paquets de biscuits, des sandwichs sous plastique, ressemblant à ceux qu'on peut se procurer si l'on est vraiment à court, dans les distributeurs des aires d'autoroute, et une marque de cola dont ni Eddie, ni Susanna, ni Jake n'avaient jamais entendu parler. Ça avait le goût du coca, la boîte était rouge et blanc, mais ça s'appelait Nozala. Ils se ravitaillèrent, tournant le dos au bosquet, face au lointain miroitement magique du palais vert, et il leur plut d'appeler cet encas déjeuner.
Si la lumière disparaît dans environ une heure, on sera bon pour s'en remettre aux voix et rebaptiser ça dîner, songea Eddie.
Mais il n'y croyait pas.
Son horloge biologique fonctionnait de nouveau, et cette mystérieuse fonction, dont il n'avait jamais pris en défaut la justesse, lui suggérait que c'était le début de l'après-midi. À un moment donné, il se leva et, levant son soda d'un même mouvement, adressa un sourire à une caméra invisible.
« Quand je roule au pays d'Oz dans ma nouvelle Takuro Spirit, je bois Nozala !» déclama-t-il. « Ça me file du punch et pas du poids. Ça me rend heureux d'être un homme. Ça me donne la connaissance directe de Dieu. Ça me donne l'âme d'un ange et des couilles de taureau. Quand je bois Nozala, je me dis tout ça. Sapristi, que c'est bon la vie !» Je me dis, assieds-toi, bidonneur, fit Jake Hillard.
Neur,
renchérit Otey. Sa truffe contre la cheville de Jake, il lorgnait le sandwich du garçon avec un intérêt non dissimulé. Eddie allait se rasseoir quand l'étrange feuille albinos lui retomba sous les yeux.
C'est pas une feuille,
se dit-il en avançant vers elle.
Non, pas une feuille, mais un morceau de papier journal.
Il le retourna et aperçut plusieurs colonnes de blablabla, de yak-yak-yak et de tout se vaut, c'est qui vaut. D'ordinaire, les journaux n'étaient pas imprimés que d'un seul côté, mais cela ne surprit pas autrement Eddie que celui-ci le soit. Le zonzon quotidien d'Oz n'avait été qu'un élément de décor, après tout. Mais le côté blanc n'était pas entièrement blanc non plus. Il comportait un message en lettres soigneusement calligraphiées en caractères d'imprimerie. « La prochaine fois, je m'en irai pas. Renoncer à la tour. Dernier avertissement. Très bonne journée. R.F. » Juste en dessous, un petit dessin, un nuage d'orage avec un éclair. Eddie ramena ce petit mot aux autres qui n'avaient pas cessé de se restaurer pour autant. Ils l'examinèrent chacun à son tour. Roland le prit en dernier, passa rêveusement son pouce à la surface, tâtant la texture du papier, puis le rendit à Eddie.
« R.F. » dit Eddie. « L'homme qui chapeautait Tic-Tac, c'est de lui, n'est-ce pas ?»«
Oui. » C'est lui qui a dû faire échapper l'homme Tic-Tac de Lune.
Bien sûr,
fit Jake l'air sombre. Ce bonhomme, Flag, a tout l'air de savoir reconnaître un bidonneur au carré quand il en voit un.
Mais comment ont-ils fait pour arriver jusqu'ici avant nous? Qu'est-ce qui pourrait aller plus vite que Blaine le Mono, nom de bleu?
Une porte, dit Eddie. Peut-être qu'ils ont emprunté une de ces portes spéciales.
Bingo !
Fit Susanna. Elle tendit la main, paume vers le ciel, et Eddie la claqua dans la sienne.
En tout cas, le conseil qu'il nous suggère n'est pas mauvais, dit Roland. Et je vous encourage à le prendre très au sérieux. Si vous désirez revenir dans votre monde, je ne m'y opposerai pas.
« Je ne peux pas te croire, Roland, » dit Eddie. après que tu nous as traînés ici, Suzy et moi, à nos corps défendants ? Tu sais ce que mon frère aurait dit de toi à ton sujet ? Que t'es aussi peu crédible qu'un cochon sur des patins à glace. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avant de vous connaître et que vous deveniez mes amis, rétorqua Roland. Avant que j'apprenne à vous aimer comme j'aimais Alain et Cuthbert, et avant que je sois forcé de revivre certaines scènes. Et avoir fait ça, ça m'a... Il s'interrompit, les yeux fixés sur ses pieds. Il avait remis ses vieilles bottes, et profondément absorbé dans ses pensées. Il finit par relever la tête. Une partie de mon être n'avait pas bougé, ni ne s'était exprimée depuis de nombreuses années. Je croyais qu'elle était morte. Mais non, elle ne l'est pas. J'ai appris à aimer de nouveau, et je suis conscient que c'est probablement ma dernière chance d'aimer. Je suis peut-être lent, Vanney et Cort le savaient, mon père aussi, mais pas idiot. « Alors n'agis pas comme si tu l'étais, » dit Eddie, « et ne nous traite pas comme si nous l'étions. Résultat des courses, comme tu dis, Eddie, j'ai causé la mort de mes amis. » Et je ne suis pas certain de pouvoir me permettre de refaire courir ce risque à quiconque. À Jake en particulier, je... Peu importe. Je n'ai pas les mots. Pour la première fois depuis que j'ai fait volte-face dans une chambre obscure et que j'ai tué ma mère, j'ai peut-être découvert quelque chose de plus important que la tour. Restons-en là. Très bien. Je crois que... Je peux respecter ça. Moi aussi, dit Susanna. Mais Eddie a raison à propos du cas. Elle prit le petit mot et passa un doigt à sa surface, pensivement. Roland, tu peux pas en parler, du cas, je veux dire. Puis tourner Kazakh et revenir là-dessus, simplement parce que la volonté de te consacrer à ta quête connaît une baisse de régime. La volonté de se consacrer à sa quête, c'est désigner la chose de façon positive, observa Roland. Il y a aussi une façon négative de la voir, que résume le mot « obsession ». Elle écarta sa remarque d'un haussement d'épaule impatient. Chouchou, soit le cas est derrière toute l'affaire, soit il n'est absolument pour rien là-dedans. Et si terrifiant que puisse être le cas, cette idée d'un destin à l'œil d'aigle et au nez de chien limier, je trouve encore plus terrifiante l'idée qu'il n'y ait pas de cas. Elle jeta le mot signé RF sur l'herbe foulée. Peu importe comment on l'appelle, on n'en est pas moins bel et bien mort quand il vous écrase, dit Roland. Rimmer, Thorin, Jonas, ma mère, Cuthbert, Suzanne. Il n'y a qu'à demander à n'importe lequel d'entre eux. Si seulement on pouvait. Tu passes à côté du plus important, fit Eddie. Tu peux pas nous renvoyer. Tu comprends pas ça, espèce de grand Flandrin? Même s'il existait une porte, on voudrait pas la franchir. Je me trompe? Il interrogea Jake et Susanna du regard. Ils firent non de la tête. Même Otté les imita. Non, il ne se trompait pas. Nous avons changé, reprit Eddie. Nous... C'était à son tour maintenant de ne pas savoir comment continuer. Comment exprimer son désir de voir la tour, et son autre désir, non moins fort, de continuer à porter le revolver en incrustation de santal. Le gros pétard, comme il en était venu à le désigner en son fort intérieur. Comme dans cette vieille chanson de Marty Robbins qui parlait de l'homme au gros pétard sur la hanche. « C'est le cas, » fit-il, « à défaut d'une autre notion assez vaste pour recouvrir le tout. »« Cas, » répondit Roland après mûre réflexion. Les trois autres le dévisagèrent bouche bée. Roland de Gilead venait de lancer une vanne. 4. Il y a une chose que je comprends pas dans ce que nous avons vu, fit Susanna avec hésitation. Pourquoi ta mère se cachait-elle derrière cette tenture quand tu es entré, Roland? Est-ce qu'elle avait l'intention de... Elle se mordit la lèvre, puis formula la chose. Est-ce qu'elle avait l'intention de te tuer, toi ?
Si telle était son intention, elle n'aurait pas choisi une ceinture comme arme. Le simple fait qu'elle m'ait fabriqué un cadeau, car c'en était un, y portait mes initiales brodées, suggère qu'elle voulait me demander pardon, qu'elle avait changé dans son cœur.
Est-ce que tu le sais seulement ? Ou bien c'est ce que tu veux croire ? Songe à Heidi. Mais il ne poserait jamais cette question. Roland avait été assez éprouvé comme ça, avait gagné leur retour sur le sentier du rayon en revivant cette ultime et terrible visite à l'appartement de sa mère. C'était amplement suffisant.
« Je crois qu'elle s'est cachée parce qu'elle avait honte, » dit le pistolero. « Ou bien parce qu'elle avait besoin de réfléchir un instant à ce qu'elle allait me dire. Comment m'expliquer ?»«
Et le cristal ?» lui demanda Susanna gentiment. « Était-il sur la coiffeuse, là où nous l'avons vu ? Elle l'avait volé à ton père ?»«
Oui, deux fois, oui. »
dit Roland. Quoique, l'avait-elle volé ? Il parut se poser la question.
Mon père savait un grand nombre de choses, mais il gardait parfois pour lui ce qu'il savait.
Par exemple, il savait que ta mère et Martin se fréquentaient, affirma Suzanne.
Oui.
Mais, Roland, tu ne peux pas croire que ton père t'aurait laissé sciemment... T'aurais laissé...
Roland la fixa de ses grands yeux hantés que les larmes avaient désertés. Mais quand il tâcha de sourire à sa question, il en fut incapable.
Aurait-il laissé sciemment son fils tuer sa femme ? Demanda-t-il.
Non, je ne peux pas dire ça. Quand bien même j'aimerais, je ne peux pas. Qu'il ait cherché à provoquer une chose pareille, qu'il l'ait délibérément mise en branle, comme un joueur de Castells, je ne peux pas y croire.
Mais a-t-il laissé le cas suivre son cours ?
Si fait, très certainement.
Qu'est-il arrivé au cristal ? Demanda Jake.
Je ne sais pas, je me suis évanoui. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'étais toujours tout seul avec ma mère, moi vivant. Et elle morte. Personne n'était accouru au bruit des coups de feu. Les murs de pierre étaient épais, et c'est elle quasiment déserte. Son sang avait séché, la ceinture qu'elle me destinait en était couverte, mais je l'ai prise et je l'ai mise. J'ai porté ce présent taché de sang de nombreuses années, et je vous raconterai comment je l'ai perdu une autre fois. Je vous le raconterai avant que nous ayons atteint notre but, parce que c'est en rapport avec ma quête de la tour. Mais si personne ne s'était inquiété des coups de feu, quelqu'un n'en est pas moins venu, poussé par une autre raison. Tandis que je gisais, évanoui, près du corps de ma mère, ce quelqu'un est entré et a subtilisé le cristal du magicien.
« Rhea ?» demanda Eddie.
Je doute qu'elle soit venue en chair et en os, mais elle avait le don de se faire des amis, celle-là.
Si fait, un don bien à elle de se faire des amis.
Je l'ai revue, vous savez.
Roland ne s'expliqua pas davantage là-dessus.
Mais une lueur d'une froideur de pierre clignota dans son œil. Eddie l'avait déjà vue et savait que cela signifiait tuerie.
Jake avait récupéré le mot de RF et gesticulait maintenant en montrant le petit dessin en dessous du message.
Tu sais ce que ça veut dire ?
J'ai dans l'idée que c'est le sigle d'un endroit que j'ai vu lors de mon premier voyage dans le cristal. La contrée dite de Tonnefoudre. Il les dévisagea l'un après l'autre. Je crois que c'est là qu'on rencontrera encore une fois cet homme, cette chose, qui a Flag pour nom.
Roland jeta un coup d'œil vers le chemin qu'ils avaient parcouru, somnambules en beaux souliers rouges.
Le Kansas que nous avons traversé était son Kansas à lui, et le fléau qui a décimé le pays était son fléau. Du moins, c'est ce que je crois.
Mais ça pourrait ne pas en rester là, dit Susanna.
Ça pourrait voyager, dit Eddie.
Et passer dans notre monde, ajouta Jake.
Sans quitter le palais vert des yeux, Roland dit « Dans notre monde ou dans n'importe quel autre ?»«
C'est qui le roi cramoisi ?» demanda Susanna tout à trac.
« Je ne sais pas, Susanna. » Ils se tinrent tranquilles alors, regardant Roland fixer le palais où il avait affronté un faux magicien et un vrai souvenir, et ce faisant ouvert la porte pour regagner son propre monde. « Notre monde, » songea Heidi, glissant un bras autour de Susanna. « Notre monde, dorénavant. » Si jamais on retourne en Amérique, comme il le faudra peut-être avant que tout ça ne soit fini, on y débarquera en étranger sur une terre étrangère, quel que soit le camp. Ici, c'est notre monde maintenant, le monde des rayons, des gardiens et de la tour sombre. Il nous reste encore un peu de jour, dit-il à Roland en posant avec hésitation sa main sur l'épaule du pistolero. Roland la recouvrit immédiatement de la sienne et dit sourit. Tu veux qu'on en profite, ou quoi ?
Oui, dit Roland. Profitons-en.
Et se penchant, il mit son paquetage en bandoulière.
Et les souliers ?
Demanda Susanna, regardant d'un air dubitatif le petit entassement rouge qu'il formait.
On les laisse ici,
fit Eddie.
Leur rôle est terminé. Allez, hop, ma fille, dans ton fauteuil roulant.
Lui passant les bras autour du corps, il l'aida à s'y installer. Tous les enfants du bon Dieu ont des souliers, dit Roland d'un air rêveur.
C'est bien ce que tu as dit, Susanna.
Eh bien, dit-elle en s'installant confortablement, l'emploi du dialecte ajoute un zeste de piquant. Mais t'as saisi l'essentiel, mon chou.
Pour ça, oui.
Alors nous trouverons sans doute d'autres souliers, puisque Dieu le veut ainsi, dit Roland. Jake fouillait dans son havresac, passant en revue les provisions dont une main inconnue l'avait garni. Il sortit une cuisse de poulet sous plastique, la regarda, puis regarda Eddie.
« À ton avis, qui nous a emballé ça ?»
Eddie leva les yeux au ciel comme pour le prendre à témoin de la stupidité indécrottable de Jake.
« Les petits lutins de la forêt, » dit-il. « Qui veux-tu ?
Allez, en route. » 5. Ils s'assemblèrent près du bosquet. 5 vagabonds sur la face d'une terre vide. Devant eux, courant à travers la plaine, une ligne dans l'herbe correspondait exactement au chemin de nuages se pressant dans le ciel. Cette ligne n'était pas aussi marquée qu'un sentier, mais pour l'œil en éveil, la façon qu'avait tout et n'importe quoi de pencher dans la même direction était aussi claire qu'une traînée de peinture. Le sentier du rayon, quelque part devant, au point d'intersection de ce rayon-là et de tous les autres, se dressait la tour sombre. Eddie songea que, si le vent soufflait dans la bonne direction, il pourrait pratiquement sentir l'odeur de sa pierre morne et celle des roses, le parfum crépusculaire des roses. Il saisit la main de Susanna dans son fauteuil. Susanna prit celle de Roland. Roland, celle de Jake. Otté se tenait 2 pas devant eux, tête dressée, reniflant l'air d'automne dont les doigts invisibles peignaient sa fourrure, ses yeux cerclés d'or grands ouverts.
« Nous formons un quatette, » dit Eddie.
Un étonnement lui traversa l'esprit. Comme il avait changé, comme il était devenu étranger, même à lui-même.
« Nous sommes un seul en plusieurs. »
« Un quatette, » dit Susanna.
« Un seul en plusieurs. »« Un en plusieurs, » fit Jake. « Allez, en route. »
Oiseaux et ours, lièvres et poissons, se dit Eddie. Avec Otté marchant à leur tête, ils reprirent leur quête de la tour sombre le long du sentier du rayon.
Merci et à bientôt chez Audible.